Voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les marauds, qui en ont déjà fait. Un petit peu. Ouais. Alors, du coup, Eden, effectivement, m'a demandé de venir parler un petit peu de ce qu'on faisait à la maraude de Saint-Pierre-de-Montréal. Donc, c'était intéressant. Moi, j'ai jamais témoigné, donc ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur ce qu'on faisait et qu'est-ce qu'on pouvait en dire. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de mettre un petit peu ici des petits constats que j'ai faits, des choses que j'ai observées, qui m'ont surpris parfois. Donc, je un petit peu de ma vision sur cette action et une réflexion personnelle. Donc pour me présenter, et Eden m'a un petit peu présenté, mais donc je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans. Effectivement, je travaille en ce moment à Paris chez Amazon. Mon quartier, c'est. Moi je suis de ce quartier-là, j'ai habité pas loin d'ici assez longtemps, et puis maintenant je suis dans le 7e arrondissement. J'habite en colocation notamment avec Thomas qui vient à Maraude avec moi. Donc on est trois, c'est sympa. Donc mon quartier c'est le 7e, pour ceux qui connaissent un peu le 7e arrondissement, moi j'ai fait toute ma scolarité à Grand Chocot, qui est donc un primaire, collège, lycée, jusqu'à la terminale, et collé à cette lycée, il y a la paroisse de Saint-Jean-de-Montréal. Donc c'était toujours un peu lié avec le soutisme, les groupes de prière, les JMJ, plein de choses. Donc j'ai fait toujours un peu tout ça là-bas, et puis après, pour mes études, je suis parti à Bordeaux faire une école de commerce, ça a duré à peu près 2 ans. Je suis revenu un petit peu à Paris et ensuite je suis parti à Hong Kong pour faire un échange universitaire qui a duré 6 mois à peu près. Et puis ensuite je suis revenu à Paris et là j'avais un petit peu tout arrêté parce que étant à Hong Kong je ne pouvais plus être dans un milieu associatif ou sur une paroisse, etc. C'est plus compliqué. Donc quand je suis revenu avec un ami, on s'est dit qu'il y avait dans le temps que moi, qu'il fallait qu'on trouve quelque chose à faire pour un petit peu associatif ou avec la paroisse. Donc on allait comme toujours à la messe de Saint-Pierre-de-Montcalou de 19h. C'est la messe des jeunes, et à la fin de la messe, il y avait une annonce d'un monsieur qui s'appelle Bertrand, et qui en fait est le président de la Maraude, et donc il nous expliquait ce qu'il faisait avec la Maraude, qui étaient les clochards. Donc il nous expliquait que le clochard c'était un terme qui aimait bien, et il nous a raconté cette histoire parce que c'était en fait ceux qui n'avaient pas d'abri quand la ville fermait au Moyen-Âge, et qui allaient se réfugier au temps où ils pouvaient, c'est-à-dire sous les cloches des églises. Donc on les avait appelés les clochards. Donc c'est une histoire un petit peu sympa. Et puis après, il a fait un appel aux volontaires, et donc avec mon ami, on s'est dit, bah voilà, on cherchait quelque chose à faire, on nous appelle, donc on y va. Donc à la fin de la messe, on va les voir, on leur demande comment ça se passe, etc. Et ils nous disent, bah venez une fois ou deux, vous allez essayer, et puis peut-être si ça vous plaît, vous continuerez. Aujourd'hui, mon ami, il est trésorier de la Maraude, et moi je suis vice-président, donc on a continué un petit peu, ça fait 3 ans et 4 ans qu'on y est, et donc on est très content de continuer à faire ça. Alors, donc exactement, si vous voulez savoir sur les maraudes de Saint-Pierre-au-Caillou, elles ont été constituées en 2007-2008 en réponse à l'appel du cardinal André 23 qui demandait aux catholiques de Paris d'être attentifs aux gens de la rue dans le cadre de l'hiver solidaire. Voilà, donc ça fait à peu près 10 ans que cette petite association existe. Et voilà, donc on a 2 activités principales. De janvier à mars, on sert des soupes fraternelles aux gens de la rue, en fait, ils viennent à l'église Saint-Pierre-de-Caillou, il y a des paroissiens qui ont préparé un dîner et qui le servent à ces gens de la rue. Et donc nous, il y a un ou deux maraudeurs qui viennent en plus pour faire un petit peu le lien entre les gens de la rue et les paroissiens. Donc il y a Eden qui a souvent participé à ces dîners également. Voilà. Donc ça, c'est juste pendant la période un petit peu d'hiver, mais le reste de l'année, le mardi et jeudi, en plus, on fait des maraudes. Donc là, tous les mardis et tous les jeudis de l'année, même pendant les grandes vacances, même la veille de Noël, voilà, on passe de façon régulière dans le 7e arrondissement. Donc comment ça se passe très concrètement? Nous, on s'inscrit sur un petit site internet juste pour dire, voilà, c'est, je vais venir, Thomas vient, il dit je vais venir, j'apporte de la soupe. Bon, c'est ça, il dit juste qu'il vient, il apporte de la soupe, et les autres savent, et puis par exemple Bruno dit je viens, j'arrive avec ma voiture. Comme ça à la fin, à 21h, on sait combien il va y avoir de personnes, qui sait pour quoi, et puis c'est assez simple, les gens viennent avec ce qu'ils ont. Et ça fonctionne assez bien. C'est assez évident. Donc on se retrouve à 21h, par contre on a le curé de la paroisse qui vient avec nous, donc dans ce cas-là, on a un petit temps de prière, et puis ensuite on y va, et on part à la découverte des gens de la rue, de notre quartier. On revient vers 23h30 aux Invalides, voilà, quand on a 2 voitures, les 2 groupes aux Invalides, on fait un petit débrief, et puis on rentre. Sur notre petit site internet, on fait également un petit compte-rendu qui permet à la maraude d'après, donc le mardi ou le jeudi, de lire ce qui s'est passé et éventuellement d'aller au même endroit s'il y a un besoin, d'apporter quelque chose qui pourrait manquer à une personne. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce que ça se déroule. Alors, les gens de la maraude, c'est un petit peu. Il y a tout dans cette maro. C'est pas que des jeunes, c'est pas que des personnes plus âgées, c'est pas. Voilà, il y a tout le monde, et donc ça fait un groupe qui est très hétéroclite, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc on a des paroissiens, des gens d'ailleurs, je pense qu'on est à peu près une trentaine, ce qui fait qu'il y a toujours assez de personnes pour le mardi et toujours assez de personnes pour le jeudi. C'est des gens qui peuvent venir un petit peu régulièrement, plus c'est facile d'être reconnu après par un gendarme, rue, donc plus le contact est facile. Et la ligne aussi, qu'il y a des femmes. Parfois d'avoir des femmes, quand on a quelqu'un qui est dans la rue tout seul et que plus personne ne lui parle, si en plus il y a une femme qui s'intéresse à lui, dans une maraude, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et on se fait souvent la question avec, par exemple, Thomas, que quand on arrive pour poser une question à quelqu'un qui est dans la rue, il nous répond, mais il répond à la femme qui est à côté de nous. Ça m'intéresse, hein, mais vraiment, ils sont heureux de sentir qu'il y a une présence féminine aussi autour de nous. Voilà, donc chacun vient un petit peu avec moi. Les maraudes sur Paris, je dirais que c'est. Il y en a quand même, d'ailleurs vous m'avez dit qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà fait des maraudes, comme ce n'était pas forcément à Saint-Pierre, ça veut bien dire qu'il y a quand même pas mal d'organisations et de choses qui se passent dans la rue. Et c'est ce qu'on voit aussi quand on est au contact de cette rue. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de paroisses qui ont des maraudes, rien que dans le 7e, on voit souvent les maraudes des Restos du Cœur, du Secours Populaire, du Secours Catholique, on croit les paroisses de Saint-François-Xavier, de Saint-Clotilde, de Saint-Pierre-Béry. Donc il y a quand même du monde. En même temps, il y a de quoi faire, il y a 7 jours dans la semaine, donc voilà. Il y a une coordination des maraudes qui existe. Je ne sais pas si elle est très efficace, mais en tout cas, je crois qu'il y a des maraudes presque tous les soirs de la semaine, en tout cas dans notre quartier, dans la plupart des quartiers. Donc il y a quand même des choses. On a des maraudes de toutes les tailles. L'autre jour, on a croisé une maraude qui était la maraude sponsorisée par Market Center, donc une chaîne de supermarché. Eux, ils avaient des sushis, ils avaient plein de choses. Alors, nous, on avait pas forcément plein de choses, mais moi, on avait des cigarettes. On s'est dit qu'ils n'avaient pas ça parce qu'il n'y a pas ça chez Market Center. Donc voilà, on arrive un peu avec ce qu'on a et finalement, il y en a pour tout le monde. On se rend compte aussi quand on est en contact des gens de la rue qu'il y a quand même des choses qui sont faites pour eux dans Paris. Il y a des assistantes sociales, la plupart ils ont le droit, ils n'en profitent pas forcément tous, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Des aides financières, il y a le RSA, il y a des associations dans le 15e du type antigène où ils peuvent laisser leurs affaires. C'est très important pour eux de pouvoir avoir l'endroit où leurs affaires sont en sécurité. Ils peuvent aller plus loin, penser à autre chose. Voilà. Donc, il ne faut pas décrier trop vite le système, parce qu'effectivement, il y a des gens dans la rue, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour les aider. Ce n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on est en concurrence d'une association à une autre, parce qu'il y a vraiment... tant que le but de l'association reste de faire d'aider les gens qui sont dans la solitude et dans la peine, il y en a pas forcément. Et puis, alors, une chose que j'ai remarqué aussi dans la rue, c'est qu'il y a vraiment une espèce de solidarité un petit peu cachée pour ces gens-là. Par exemple, autour des commissariats, souvent, il y a des gens de la rue qui sont là. C'est pas par hasard, ils savent qu'ils sont un peu protégés par les policiers, et c'est le cas. C'est le cas. Donc, on a des amis de la rue qu'on va voir à Invalides, juste à côté des commissariats, ils sont pas là par hasard. Ils savent que c'est un endroit qui va être plus sécurisé. Donc, quelque part, la police protège ces gens-là autant que nous. On a souvent le voisinage qui aide concrètement les gens de la rue, donc ça, on s'en rend pas compte. Mais on a des gens qu'on va visiter, qui tous les soirs ont un plateau repas qui leur est apporté par un voisin. Donc c'est des petites choses qui sont belles aussi. On a tous les commerces qui donnent parfois des invendus, qui donnent un déjeuner. J'ai entendu une fois la lettre qui me disait qu'il va recharger son téléphone portable chez Pizza Hut. Et chaque fois qu'il revient, il a son portable téléphone et il y a une Pizza Hut. Donc c'est des petites choses comme ça, mais c'est des petites choses qui sont belles. Et sans qu'il n'y attend pas forcément, mais les gens de la rue entre eux, s'entraînent aussi pas mal. Donc, en fait, on a plusieurs comportements. On a ceux qui ne se voient pas, qui ne communiquent pas, qui ne se parlent pas. Et puis, il y a ceux qui, quand ils vont trop, vont donner assez qu'ils n'ont pas assez. Et ça, c'est quelque part une belle leçon de vie pour nous, parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais assez, et eux qui n'ont rien, mais ils arrivent quand même à partager ce qu'ils ont. Donc, voilà. Alors, si on parle un petit peu maintenant des hommes et des femmes qui sont dans la rue et qu'on rencontre, nous, on les appelle des amis de la rue, entre nous. Sur le compte rendu, on parle de nos amis de la rue. On les appelle souvent par leur prénom. Déjà, parce qu'on ne connaît pas leur nom de famille. On leur demande pas trop. On leur demande comment ils s'appellent, ils nous répondent un prénom. On retient le prénom. Et voilà. Donc on ne connaît que le prénom. Et du coup, je connais une trentaine de prénoms de personnes de la rue, mais je ne connais pas un seul nom de famille. En fait, souvent derrière ce qu'on met derrière le prénom, c'est le lieu où ils sont. Donc, c'est un petit peu comme, comme il y a très longtemps on faisait en France, mais on parle d'un tel qui est Arsène, ou de celui-là qui est sous le pont d'Alma, ou invalide avec un militaire, et en fait tout le monde voit de qui on parle. On a un prénom et un lieu, ça suffit pour identifier quelqu'un. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le même. Dans la même société que nous, où on prend toujours le nom de famille plutôt pour parler des gens. Et ce prénom, on y reviendra, mais il est vraiment essentiel pour le contact. C'est important de connaître au moins ça sur les gens qu'on va visiter. Ça facilite vraiment les choses derrière pour pouvoir leur parler. Alors, il y a une question aussi qu'on se pose un peu chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit mais comment cette personne a pu en arriver là ? On rencontre quelqu'un, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et qui parle, parfois on a même envie de poser la question, comment est-ce que tu es arrivé là ? Et peut-être que c'est un peu de la curiosité mal placée parce que souvent on se rend compte qu'il y a une rupture quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé là, on peut arriver assez vite dans la rue, mais souvent il s'est passé quelque chose. Il y a un élément, il y a un déclic, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, ça peut être de l'alcool, ça peut être plein de choses qui peuvent même se mêler les unes avec les autres et ça arrive assez vite. Comme ça peut être douloureux, nous, en tout cas, on ne pose pas trop la question. Si on nous en parle, on écoute, mais on n'est pas vraiment là pour vous demander ça. Il y en a qui nous parlent de leur famille. Alors, soit elles sont brouillées avec cette famille, soit la famille les a aidées un peu au départ et puis ensuite c'était trop compliqué. Soit ils ont visité sans doute leur famille par période, mais c'est vrai que pour nous qui avons des familles peut-être solides, en tout cas moi c'est mon cas, mais qui on n'imagine pas vraiment pouvoir venir dans la rue avec une famille à côté. Donc, c'est une situation qui peut parfois vivre et qui est très différente. Alors cette rue qu'on côtoie, c'est vrai que surtout dans un quartier comme le 7e, moi j'ai des gens qui me disent « Ah, tu fais la marque dans le 7e, ça va, les 7e ils sont bien. » Mais pas forcément. La rue du 7e, je ne sais pas si elle est vraiment mieux que la rue des autres arrondissements, c'est pas sûr du tout. La rue, elle est sauvage. On a beaucoup de SDF qui sont volés, qui font voler leurs affaires, on arrive, ils n'ont plus rien. Et quand déjà on n'a pas grand chose et qu'on perd le peu qu'on a, c'est vraiment très difficile. On a beaucoup qui n'arrivent pas à conserver ne serait-ce que leur papier d'identité. Et alors là, quand on n'a pas grand chose, mais qu'on n'a même plus sa carte d'identité, c'est un peu révélateur d'une identité qu'on est en train de perdre. C'est des démarches, et nous déjà qu'on n'aime pas bien les démarches. Pour eux, c'est encore plus compliqué. Rentrer dans une boulangerie, pour eux, c'est compliqué. Alors rentrer dans une mairie pour refaire une carte d'identité, ça relève vraiment de l'épreuve. On en a vu parfois qui se faisaient agresser la nuit, du coup qui ne dormaient pas pour pouvoir se protéger. Du coup, ils changeaient d'endroit, nous on les perdait de vue, mais ils allaient peut-être plus près d'un commissariat ou d'un endroit plus tranquille. On en a pas mal qui avaient ce genre de problème. D'où l'emplacement qui est assez important, qui est compliqué à garder, qui, si on s'en va la journée, on risque de perdre un peu son emplacement, qui est un peu son lieu où on est un tout petit peu plus en sécurité, où on a commencé à se rattacher à deux, trois choses. Donc c'est compliqué. On a les voisins parfois qui autant parfois peuvent être fenêtres, autant parfois sont pas très contents de voir arriver ici quelqu'un de la rue. Ils sortent de chez eux, ça peut être compliqué, c'est désagréable. On a des voisins parfois qui sont pas contents d'avoir des gens là, qui leur demandent de partir. Du coup, on a la mairie. On a des mairies parfois qui disent on a un plan à partir de la semaine prochaine, faut que vous soyez partis. Donc on a des gens qui ne savent pas trop où ils seront la semaine prochaine. On a la mairie parfois qui peut parfois aider et puis parfois être aussi source de problèmes. Un des plus gros problèmes, à mon avis, c'est quand même la solitude dans la rue. Dans la rue, les gens, il y a plein de gens partout, mais ils ne s'arrêtent pas. Et finalement, on est bien plus seul quand on est au milieu de la rue tout seul que quand on a un appartement où les gens qui viennent finalement s'intéressent à nous. Alors, les gens qui sont dans la rue ont des caractères qui sont très différents. C'est comme nous ici, on a plein de caractères différents, et bien eux c'est pareil. Donc c'est le reflet d'une société quelque part un peu normale. On a des gens qui sont solitaires, qui ne veulent pas se mettre dans un groupe, qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne voient pas leur voisin qui est à 20 mètres sous une autre arche. Et puis on a ceux qui vivent plutôt en groupe, qui se protègent entre eux. Et puis bizarrement, un groupe qui n'accepterait pas la personne qui est à 5 arches plus loin. Des caractères qui sont très différents, il y en a qui sont timides, bavards, il y en a qui sont fiers et qui ne veulent pas d'aide. Alors, par exemple, on arrive souvent à Air France, pour ce qu'on appelle la France, c'est sur les plages des Invalides, il y a une espèce de local de la France qui ferme à 23h et qui est chauffé. Donc là, quand on commence notre marron, on va là avec l'aide de l'humain. Parce que c'est chauffé. Et on sait qu'ils vont être un petit peu chassés à 23h. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là, s'il pleut dehors, c'est couvert, et nous, on peut aller là. Et là, il y a plein de gens. Il y a ceux qu'on connaît, qui vont venir vers nous tout de suite, qui sont contents de prendre un café. Il y a ceux qu'on va voir parce qu'on sait qu'ils sont là, qui sont contents de nous voir. Et puis, il y a ceux qui sont exprès de ne pas nous regarder, qui ne nous voient pas. Et même nous, on pourrait dire, est-ce que ces gens-là sont vraiment des gens de la rue? Alors, on pourrait dire qu'à 23h, quelqu'un qui est tout seul, contre un mur, par terre. Oui, mais ces gens-là, ils ne donnent pas cette impression-là. Ils ne veulent pas montrer qu'ils ont besoin d'aide. On a aussi des gens, ils seraient contents qu'on passe les voir, mais pas dans le cadre d'une maraude. Parce que venir dans le cadre d'une maraude, ça signifie un peu qu'on sait qu'ils ont besoin d'aide et qu'on vient pour les aider. Donc ça nous arrive parfois de nous faire un petit peu chasser par un de nos amis de la rue, parce qu'il nous dit, et si tu viens me voir, on met ta journée pour discuter, je serais content. Si tu viens me voir dans le cadre d'une maraude, tu fais juste les SDF les uns après les autres, ça ne m'intéresse pas. C'est des caractères un petit peu... On a des gens qui malheureusement perdent un peu la tête, on en a qui sont assez astucieux, on en a un qui arrive à brancher son téléphone portable sur le lampadaire. Donc un jour il a fait sauter tout le courant du quartier. C'est vrai que les cheveux sont un peu dressés sur sa tête, mais maintenant il a son installation qui est plutôt stable. Et donc voilà, on en a qui sont assez malins, ils sont contents de nous montrer ça. On en a qui sont très serviables, par exemple quand on fait les soupes populaires, on a des tables à installer et à remettre après. Il y en a qui sont toujours là en avance exprès pour aider. Ils sont contents de pouvoir montrer qu'ils sont là aussi et qu'ils sont nous aider. Très étonnamment, on en a aussi qui sont très cultivés. Donc on dit toujours que les gens dans la rue peut-être n'ont pas eu l'occasion de faire beaucoup d'études ou n'ont pas eu des professions supérieures très très importantes. Mais on en a quelques-uns qui ont sûrement été professeurs ou enseignants dans le supérieur. Qui sont capables de parler plusieurs langues, qui sont capables de comprendre le passé historique de pas mal de pays, qui sont capables de parler de culture, de réciter des poésies, de lire des livres, qui nous demandent des livres que moi je n'ai pas forcément, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a vraiment tous les types de personnes, et évidemment en termes de religion, on a aussi toutes les religions, mais on ne s'arrête pas évidemment aux chrétiens. On a des catholiques avec qui c'est intéressant de discuter. Et puis on a les musulmans aussi qui sont contents d'échanger avec nous, donc ça va au-delà des religions. J'avais noté aussi que ce qui est un peu difficile dans ces maraudes, c'est qu'on a des situations qui parfois se passent bien, et puis malheureusement, on est un peu en échec par rapport à ce qu'on voit, on est un peu impuissant par rapport à ce qu'on vit. Par exemple, ça fait 3 ans, je pense, que je fais la maraude maintenant, il y a déjà 4 de mes amis de la rue qui sont décédés. Donc c'est des gens que j'allais voir, et puis un jour on ne les voit plus, puis après on ne les voit plus, puis un jour on apprend, très bien des associations, que malheureusement ils sont décédés. Il y a beaucoup de raisons d'avoir une vie très courte dans la rue. Il y a la fatigue, il y a des accidents, parfois l'alcool, on a eu des tentatives de suicide, ce sont des choses qui sont compliquées. Je vais peut-être en dire plusieurs fois, mais vraiment dans la rue, on meurt de solitude. Donc tous ces gens-là, ils sont tout seuls. Et c'est une raison qui peut pousser à vivre à mourir plus vite. Il y a une association qui a estimé que l'espérance de vie dans la rue, elle était à 43 ans. Donc c'est pas très élevé. Il y a des conditions de vie qui sont très compliquées, et quand on est face à ça, c'est difficile pour nous de savoir quoi faire. Quand il y a l'hygiène qui manque, il y a plein de choses. Quand on s'en va et qu'on laisse un SDF tout seul et qui se met à pleuvoir et qu'on sait qu'il n'a pas de poids et que nous on va rentrer chez nous dans une heure, c'est vraiment des situations qui sont compliquées. Peut-être ce qui est plus compliqué encore, c'est lorsque on sent chez quelqu'un que la volonté de s'en sortir a disparu depuis longtemps. Parce que là, on sait qu'on a beau parler, on a beau aider, on a beau discuter autour d'un café d'une cigarette, on va pas les convaincre qu'ils peuvent s'en sortir. Et ça, c'est difficile. Avec un futur qui va être un peu. Voilà.
Est-ce qu'ils acceptent
un tiers,
ils peuvent
rentrer pour eux,
s'ils
sont heureux? Ouais, alors ça dépend lesquels. Il y en a, j'aimerais qu'ils sont contents de prier avec nous, et ça c'est plutôt des très bons moments. Et puis il y en a avec qui ça ne parle pas. Et voilà. Après, c'est pas les choses qu'on propose systématiquement, peut-être qu'on devrait.
Est-ce qu'il a pu s'en sortir, mais il va
faire un coup de temps? De toute façon, je crois que nous, on fait pour eux. qui est parti. Ouais. Sur la Vendée, ça fait un peu partie de l'accompagnement qu'on essaye de donner, mais ouais. Ouais, c'est pas forcément compliqué. Et alors, bon, il y a certains échecs, il y a quelques réussites aussi, et c'est toujours plaisir. On a quelques-uns qui ont réussi à trouver une chambre, hein, donc c'est-à-dire à sortir de la rue. C'est un pas où on sort de la rue qui est très compliqué à franchir. Parfois, à trouver un travail, donc je dirais que l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Trouver un travail quand on vit dans la rue, c'est vraiment très compliqué. Se lever le matin quand on dort sur le trottoir, c'est très compliqué, puisqu'on dort mal, parce qu'on dort dans la peur. Donc il y en a quelques-uns qui ont réussi à trouver des chambres et un travail. Moi, ça doit faire 3 ans que je suis à Maroc, comme je vous ai dit. Je pense qu'il y en a peut-être 3 qui sont sortis de la rue depuis que j'y suis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Alors, en termes de centre d'intérêt, ce que je trouve étonnant, alors bon, il y a ceux qui voulaient parler de sport, ça suffit, hein, le PSG, l'équipe de France, il n'y a pas de problème, ça attire et ça rassemble. La météo, ça marche bien. J'ai trouvé assez étonnant qu'il y en ait beaucoup qui s'intéressent à la politique et à l'écologie. Ça m'a pas mal marqué. L'écologie, c'est l'écologie, les saisons, voilà. Ils sont souvent assez sensibles à tout ça. Après, en termes de sujet, bon, bah, voilà, chacun un peu le sien. On a quelqu'un qui nous parle de la technologie, de la bourse, du parc hein, en face du KMV, de la religion, de l'écologie. On a tous les centres d'intérêt. Et on essaye pour chacun de retenir un petit peu le centre d'intérêt qui est son préféré. Comme ça, pour faciliter le retour à la conversation pour une prochaine fois. Alors, une fois qu'on a fait le constat un petit peu de la façon dont ils vivent et de qui ils sont, la question que je me suis posée, c'est de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ces gens qu'on va visiter. Quel serait finalement l'objet de notre parole? Alors, on n'a pas vraiment de situation d'urgence où on arrive et tout de suite, il faut faire quelque chose, sinon dans la limite, il va y avoir une catastrophe. Ça, c'est pas trop donc ça, c'est pas. Enfin, ça nous est arrivé une fois ou deux d'appeler les pompiers ou d'amener quelqu'un à l'hôpital, mais c'est pas trop notre fonction. On pourrait dire qu'on y va pour leur donner de la nourriture, mais là encore, c'est pas trop ce qu'on cherche à faire. Nous, on a un petit peu de nourriture avec nous, mais bon, plutôt des gâteaux, des petits pains au chocolat, des choses comme ça. Parfois, on a une boulangerie qui nous donne des rendus, on se trouve avec un coq chargé de gâteaux. Mais je dirais que dans la rue, on ne meurt pas de faim. Quelqu'un qui veut trouver à manger dans la rue, il peut, il y a pas mal d'associations pour ça. Je pense qu'on peut avoir tous les jours 2 repas chauds dans la rue en allant aux bons endroits, et les bons endroits, on peut les trouver, ne serait-ce qu'en allant à la mairie. Donc, les gens dans la rue, ils meurent pas de faim. En termes de vêtements, c'est pareil. On a des choses, on donne des choses dans la mesure de ce qu'on a. Je pense qu'il y a des associations qui donnent plus que nous. Mais, voilà, je pense que c'est pas notre priorité non plus. Le petit café et la cigarette, c'était assez facile pour lancer une conversation, mais c'est pareil, on ne vient pas pour ça. En fait, je pense que, encore une fois, j'ai déjà dit, mais on meurt de solitude dans la rue, et nous, on vient pour casser cette solitude. Donc on vient simplement pour leur parler, et surtout pour les écouter. Donc en fait, c'est ça l'objet de notre parole, c'est vraiment l'écoute de ces personnes. Après une journée où ils n'ont pas forcément parlé à une seule personne, nous on arrive. Si on les connaît déjà et qu'on arrive assez rapidement à les mettre en confiance avec nous, ils comprennent assez vite qu'on est là pour partager quelque chose avec eux. Et nous, ça veut dire écouter, et eux, ça veut dire potentiellement parler. Et là, ils disent souvent, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à être là et à écouter. Et par exemple, j'en parlais avec Thomas il y a 2 semaines, il me disait que parfois c'est difficile de savoir combien de sucre on met dans le café. Quand la personne en face, elle parle et elle est contente de parler. On ne peut pas arrêter pour lui poser une question. On lui demande 1 fois, 2 fois, elle ne répond pas, elle parle, elle est trop contente de parler et elle parle à la femme qui a fait moins sur la ligne, sinon le Thomas, il finit par mettre un sucre et c'est très bien. Alors parfois, il faut comprendre qu'en face de nous, on a une situation de blocage et il y a juste besoin d'un petit encouragement pour aller plus loin, pour pousser cette personne à franchir un petit pas. Qui peut paraître un petit pas pour nous, mais qui est parfois un pas insurmontable pour elle. Par exemple, on avait une fois un de nos amis de la rue qui nous racontait qu'il avait peut-être trouvé une chambre. Donc nous, on est tout de suite très impressionné par ça, et évidemment, on l'encourage à saisir cette occasion. Et il nous dit que le problème pour lui, c'est que dans cette chambre, on n'a pas le droit d'avoir une télévision. Alors nous, ça nous paraît un peu... Il y a un contraste entre être dans la rue sans télé et être dans une chambre peut-être sans télé. Bon, peut-être qu'on peut choisir la chambre quand même et dire que c'est pas tant que ça un mauvais choix. Donc on l'a vraiment poussé à ça. Et en fait, je pense qu'il y avait vraiment un blocage psychologique. Lui, il avait décidé qu'il n'y avait pas de télé et peut-être en fait le problème c'était autre chose. Mais nous, vraiment, on l'a poussé à y aller et on s'est dit que ça allait le faire, qu'il était motivé, qu'il avait compris que la télé c'était peut-être pas essentiel. On lui a même dit que si vraiment il était dans sa chambre, que ça lui manquait trop, on lui achetait une mini télé portable pour qu'il puisse s'installer quand même. Et la semaine d'après, il est revenu, il n'en a même pas parlé, donc c'était pas quelque chose qui a abouti. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui est parfois un tout petit pas pour nous à franchir, qui est une évidence, pour eux, c'est insurmontable. Donc en fait, c'est pas si facile que ça de juste d'accepter une main qu'on nous tend et de passer le pas. Alors, comment est-ce qu'on peut facilement ouvrir le dialogue avec les gens de la rue? La première chose, c'est que c'est difficile. Difficile pour quelqu'un de la rue, tu vois arriver des gens. Nous, en plus, souvent, on fait par voiture. Une voiture, c'est maximum 5. C'est-à-dire, on n'est pas plus que 5. 5, c'est beaucoup, parce que ça peut être impressionnant pour une personne qui est toute seule. On essaie d'être 3-4. Mais même 3 personnes, quand vous êtes tout seul, si vous ne connaissez pas 3 personnes qui viennent vous parler, qui se dirigent vers vous, c'est impressionnant. Donc, le premier réflexe pour les gens de la rue, c'est qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de nous. Donc là, il faut essayer tout de suite de les rassurer. Voilà, il faut essayer d'avoir des repères stables. Le premier repère stable, c'est de venir avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, essayer de les appeler par leur prénom. Donc même si on ne les connaît pas, si la maraude de la semaine d'avant ou de 2 jours avant est déjà passée et qu'on a le prénom, déjà, tout de suite, on gagne un petit peu en confiance. De venir aux mêmes horaires ou de venir avec la même voiture. Quand on change de voiture, ils sont un peu perdus. Nous, on pense que c'est pareil, c'est une voiture. Mais en fait, pour eux, c'est important. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on directement on leur propose une cigarette. Je dirais que 9 fois sur 10, le coût de la cigarette, ça marche assez bien. Ils comprennent qu'on est là pour partager quelque chose avec eux, ça marche bien. Si on a retenu leur sujet, on attaque directement avec leur sujet préféré, et puis comme ça, on va pouvoir discuter avec eux. On passe vraiment très vite sur cette étape où ils ont peur, et hop, on rentre dans leur zone de confiance. Ensuite, on peut construire quelque chose. Il faut aussi laisser le temps à la personne à s'habituer au fait qu'il y ait des gens qui viennent aider. Ce n'est pas quelque chose de forcément naturel pour elle. Par exemple, à Saint-François-Xavier, on passait, c'était il y a 2 ans, on passait tous les mardis, tous les jeudis voir une dame, avec qui on restait assez longtemps. Voilà, elle était contente qu'on soit là. Et puis, sur le chemin autour des grilles de Saint-François-Xavier, on passait devant un autre SDF, mais avec lui, on ne s'arrêtait pas. On ne lui parlait pas parce qu'il ne voulait pas qu'on s'arrête. Donc on avait plus l'habitude de passer pas tout près de lui, donc c'est assez loin exprès pour ne pas l'embêter. Mais le fameux Bertrand, le président de notre association, chaque fois il faisait un petit coucou, il s'arrêtait, il attendait qu'il le regarde, il faisait coucou, et puis il repartait. Et moi je me dis, mais pourquoi on fait coucou et du coup on ne s'arrête pas, et puis il restait comme ça. Et en fait il m'a dit, c'est petit à petit, et on commence doucement, on fait coucou de loin, et puis on fait coucou d'un peu plus près, et puis il s'est dit, je suis allé voir, et un jour il a fait son cigarette, et là on peut commencer à construire quelque chose d'avec lui. Donc c'est assez marrant, et c'est vrai que petit à petit on s'est rapproché de lui, puis on a fini par réussir à lui parler. Il y a une chose sur laquelle on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs entre nous, c'est quand on leur retombe sur quelqu'un qui est endormi. Alors eux ils vivent dans la rue, donc ils dorment là. Forcément ils n'ont pas la porte de l'appartement pour dire c'est fermé, je dors. Non. Nous on arrive, on ne sait pas s'il dort, s'il ne sommeille pas trop profondément en nous attendant, il y en a qui nous attendent, ils vont aller par la voiture, hop, ils se réveillent, c'est à ce qu'on arrive. Il y en a d'autres qui dorment, et donc la question c'est de prendre les réveils ou pas. Moi je pense qu'il ne faut pas forcément réveiller les gens qui dorment, c'est compliqué pour dormir, donc c'est souvent là, la plupart du temps on va passer et on ne va pas s'arrêter s'ils dorment, ou alors on leur dépose quelque chose, si on a quelque chose à leur donner, mais on ne va pas les réveiller. Voilà, donc toujours cet objectif de faire rentrer l'autre dans une zone de confort qui est un peu plus propice à la discussion. Alors, l'écoute. Donc l'écoute, comme je vous l'ai dit, est primordiale. Même au point, si on n'est pas forcément d'accord, ben on écoute quand même et quelque part on dit oui, c'est pas... Je veux dire, l'objet, c'est juste de faire comprendre à la personne qui est en face de nous qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle, que socialement elle n'est pas toute seule, mais elle a des interactions sociales qui sont normales, de discussion, et puis si jamais on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit, quelque part c'est un peu secondaire. D'ailleurs, pour illustrer ça, on avait un moment le père Richard, qui est le curé de... Enfin, qui qui discutait avec un Roumain. Donc il y avait deux maraudeurs avec lui, il y avait lui, puis il y avait deux Roumains qui discutaient. Et donc il y avait une discussion entre eux qui s'était installée, et puis le père répondait. Et puis à la fin, ils sont bons, les Roumains sont très contents, les maraudeurs sont bons, puis les maraudeurs, ils disaient à votre père, mon père, vous nous impressionnez, là, vous parlez roumain, c'est impressionnant. Et le père, il dit, mais moi, je parle pas du tout roumain, moi, j'ai rien compris. Et quand vous répondiez, c'était, ouais, on se comprend. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le père, il avait tout compris, il parlait pas la langue, il comprenait pas ce qui se passait, mais il a senti que la discussion, il comprenait globalement, mais l'important, c'était pas ça. L'important, c'était de montrer aux autres qu'ils étaient écoutés, qu'on s'intéressait à eux, et c'est ce qui s'est passé. Et nos amis roumains, ils étaient vraiment très contents qu'on soit passé les voir, qu'on ait pu échanger quelque chose avec eux, et voilà. Donc c'est pas important de parler la langue, des gens ça, c'est important, c'est d'être là pour eux. Voilà, donc comme la seule chose qui est importante, c'est l'écoute, ce qui est bien, c'est qu'ici, on est tous capables d'écouter, donc si vous souhaitez venir avec moi à la de la Rose, au moins, je pourrais tous venir. Un petit peu plus loin, je pense. Alors, on donne aussi des vêtements. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu surpris. C'est, vous avez tous les types de personnes. Vous avez ceux qui acceptent tout, vous proposez des vêtements, ils sont d'accord. Il y a ceux qui acceptent rien, ils veulent rien du tout, ils veulent pas entendre parler de vous, non. Il y a ceux qui demandent toujours, même s'ils n'ont pas besoin. Alors, vous dites, je sais pas si c'est ta taille, mais c'est ma taille, ok, bon. Donc eux, on se méfie un peu parce que si vous lui redonnez un sac de couchage, que vous en avez qu'un, et qu'à la rue d'après, il y a quelqu'un qui doit avoir son sac de couchage, vous êtes un peu embêté d'avoir du lui un peu vite. Donc malheureusement, on est un peu obligé parfois de doser ce qu'on donne, ce qu'on donne pas. On commence à connaître certains qui viennent nous voir à la sortie de la voiture, là où que le coffre est plein. Donc on fait un peu attention à ça. Et puis, il y a une quatrième type de personnes qui sont ceux qui sont, j'allais dire difficiles, pas le bon mot, mais ça c'est une leçon de vie aussi pour moi, c'est que c'est pas parce qu'on est dans la rue et qu'on a rien, on a fait que tout. Moi j'ai appris que quand vous avez un t-shirt, il ne faut pas juste dire ça c'est un t-shirt, non, c'est enfin, un super t-shirt, je crois qu'en plus c'est parfaitement ta taille, et si vous ne faites pas ça et que vous ne dites pas que ça va parfaitement avec ton teint, il ne va pas le prendre, et lui il n'aura rien sur le dos. Donc on a appris petit à petit à faire une vente de t-shirt, et à montrer que ce t-shirt là, il serait parfait, ou ce pantalon là, il serait parfait pour cette personne. Et comme ça, on a quelqu'un qui est content d'accepter quelque chose dont elle a besoin, et pas qui ne va pas vous refuser juste parce que le t-shirt, les deux clairs et pas de français. Donc voilà, c'est des gens qui sont comme nous, ils choisissent leur affaire et donc c'est bien de les aider un petit peu. Voilà. Alors une fois que ce contact est instauré, c'est là qu'on se rend compte que la maraude c'est finalement un bon moment où on peut avoir un échange avec les gens qu'on visite. On a eu des échanges de support, donc on l'a dit, on a eu des prières dans la rue. Alors par exemple, c'est Rustem. Encore une personne qui est partie malheureusement, mais quand on partait, souvent on lui disait est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin, qu'on pourrait faire. Et il dit oui, est-ce qu'on pourrait faire une partie faire une prière. On dit ouais, bah d'accord, par contre, c'est toi qui fais la prière. Alors, il dit ok, on se mettait en terre dans la rue, et cette personne, elle priait, puis elle priait surtout pour nous. Donc nous, on lui donne la prière, on dit ouais, nous, dans la tête, on prie aussi pour elle. Mais voilà, ce qui veut se dire, c'est cette personne, elle était vraiment très sensible à ce qui se passait et puis que sa prière à elle, elle était pour nous. On avait eu, il n'y a pas très longtemps, on avait rencontré un Polonais et puis c'est une des maraudeuses qui était avec moi qui dit « Ah, mais le Polonais, moi je connais le Polonais » et avait récité le « Je me savais marier au Polonais ». Un souvenir de jeunesse qui était revenu comme ça tout seul. Et le Polonais, il ne disait rien. Et puis il commençait à avoir une larme aux yeux, et puis à la fin il a été dans sa tente chercher un petit cadeau, il a donné un bisonnier à cette personne, qui est aussi assez émue. Donc on a des petits échanges comme ça, qui sont assez forts, et je crois que cette personne n'est pas prête d'oublier ça. On a des SDF qui sont contents de nous avoir, et puis même s'ils n'ont pas vraiment de chez eux, ils ont envie de nous inviter quand même chez eux. Donc ils disent, bah assieds-toi sur ma banquette, assieds-toi sur mon siège, etc., tu seras mieux, et là on dit c'est encore une fois c'est des gens qui n'ont rien et qui nous invitent chez nous. Donc c'est assez beau. On a eu des beaux moments où on était un peu dans le froid d'hiver. On s'est retrouvés sur un canapé, on ne savait pas trop d'où il sortait, avec un bras zéro, avec un petit feu, on se réchauffait tous ensemble. Et là on se disait qu'on est un petit peu tous les mêmes finalement. Quand il fait froid, on a froid, on se réchauffe autour du feu pour échanger. C'était vraiment des beaux moments. Il m'est arrivé de. par chance, comme je parlais un peu trois mots d'espagnol, de pouvoir communiquer en espagnol avec des gens, sinon on n'aurait pas pu discuter avec eux. Donc c'était content de trouver quelqu'un qui peut enfin les comprendre et les conseiller. Alors suivant comment ils sont installés, on en a qui parfois qui nous réservent des belles surprises, par exemple au moment de Noël, il y en a qui mettent toujours une petite crèche. Donc on ne sait pas comment ils vont la mettre, on ne sait pas comment elle va être, mais on est content de découvrir avec eux la petite crèche de nos amis sans abri, ou sa femme Noël. On essaye aussi quand on connaît de noter les anniversaires, et là on arrive avec, avec un gâteau, avec une petite coupe de champagne, souvent le cadeau c'est une cartouche de cigarette dans du papier cadeau, donc vraiment content. On a eu des cadeaux qu'ils nous ont faits, j'ai des BD, j'avais dit une fois quelqu'un m'avait des préférés, il avait ça dans sa tente et je suis parti avec. Il y en a un qui a écrit un peu, enfin, par l'intermédiaire d'un journaliste, mais il a écrit son témoignage dans un livre. Et comme on avait ce livre, il nous l'avait dit, c'est des petites choses qui sont sympas. On a eu des échanges de chapelets. Il y en a qui nous donnent parfois de la nourriture. C'est bizarre qu'ils nous donnent de la nourriture, qu'on aille la donner aux autres. Donc ça encore, c'est assez fort. On arrive avec un pain de croissant, on ne sait pas d'où ils viennent, mais on les distribue et ça marche. Une fois, on a un SDF qui nous a dit qu'il revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et qu'il avait là-bas découvert la boisson locale. C'est vraiment très bon. C'est un mélange de vin et Coca-Cola. Donc il avait du vin et du Coca-Cola à ce moment-là. Donc hop, et on a sorti le verre de l'amitié et on a goûté ça tous ensemble. C'était un moment plus sympa pour les gens qu'on avait entendu forcément pour la boisson. Mais c'était quand même un bon souvenir. Je ne connais pas forcément, mais...
C'est une
autre chose. Oui, c'est une autre chose. Je ne sais pas si c'est personne, hein, parce que je ne sais pas si c'est personne, mais... sûrement il y a d'autres dosages possibles. Parfois ils nous donnent leurs appareils pour qu'on les charge aussi. Ils nous donnent un téléphone portable, ils nous donnent... Parfois il y en a qui nous donnent une batterie de voiture, pour qu'on puisse recharger ça, puis savoir brancher sa nouvelle télévision pendant un mois, qu'on se retrouve à brancher une batterie de voiture chez nous. On se demandait si ça allait faire le feu ou pas. Il y en a un par exemple qui nous demande, il nous donne un papier assez régulièrement avec dessus plein de petits films. Et moi je reviens chez moi, je télécharge les films sur mon ordinateur, je lui redonne une clé USB avec les films dessus. Et pendant deux semaines, il a une bibliothèque de films à regarder parce qu'il a un petit écran. Donc c'est quand même, ça c'est des échanges assez sympas qu'on ne pense pas forcément avoir au départ. Et puis on a des choses qui sont assez marquantes. Par exemple, il y en a un qui a un album photo. De temps en temps, il le sort, et puis il tourne les pages, et puis il y a des photos de nous dedans. Quand on prend des photos avec notre téléphone, il nous dit tu m'imprimes, et puis après on oublie, on l'imprime, on lui donne, on lui dit un peu. Toutes ces photos, elles sont là dans l'album. Et puis là, c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu une famille, finalement. Donc quand tu reçois des cartes postales, parce qu'en fait, les gens reçoivent des cartes postales, il y a des gens qui leur écrivent à côté du commissariat, ou devant la poste, et puis ça marche. Donc toutes les cartes postales, elles sont là et tout. C'est un peu le trésor caché. Voilà. Moi ça m'arrive souvent de dire que c'est une belle maraude. Les gens qui ne vivent pas forcément ça, ils ne comprennent pas pourquoi je dis que c'est un beau moment ou c'est un bel échange. Mais c'est vraiment comme ça que je le vis et je pense qu'on peut dire que c'est une belle maraude, ce sont de beaux moments. Puis concrètement, ça apporte quelque chose aussi. On rencontre des nouvelles personnes qui sont des gens très différents de ceux qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc ça apporte forcément quelque chose de ce point de vue-là. Et surtout, je pense que ça, on s'en rend compte dès la première personne qu'on rencontre dans la première maraude, c'est que ça fait relativiser ses problèmes. Je pense que quel que soit les problèmes de chacun, quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas grand-chose et qui dort dehors sous la pluie, on se dit que nos problèmes sont peut-être un cran moins importants. Alors, au-delà juste de cette simple maraude, je me suis demandé comment est-ce que moi je vivais cet engagement. Le premier constat, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat que la maraude est quelque chose de beau, c'est en fait qu'on se rend compte que la maraude nous apporte quelque chose. Et ça c'est vrai. La maraude, au début on y va en pensant qu'on va donner quelque chose, et puis dès la première on se rend compte que ça nous apporte aussi quelque chose. Donc la maraude me rapporte, j'en tire de la joie, de l'espérance, je me sens utile. C'est beau de se rendre compte de ça, mais par contre, il faut juste faire attention, ne pas oublier pourquoi on y va. On n'y va pas pour recevoir quelque chose. Et donc il faut faire attention à ça, et je sais qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, assez facilement, on peut se dire, on peut être frustré, ou on peut avoir un peu de frustration par rapport à ce qu'il vit dans cette marronne, parce qu'on s'attend à recevoir quelque chose. Mais c'est pas forcément l'objet. Par exemple, si vous vous reconnaissez un SDF que vous utilisez depuis 6 mois, mais lui, il ne sait pas qui vous êtes, alors, en fait, c'est quelque chose qui est assez normal dans la rue. Ils n'ont pas les mêmes repères que nous, mais ça peut au bout d'un moment être un peu frustrant. Ou s'ils ne retiennent que le nom de votre voisin, ou de votre voisine, ben, vous pouvez finir par vous dire, bon, quand même, voilà, c'est pas forcément le... c'est pas l'objet. On a un timing aussi qui n'est pas même, qui n'est pas un espace-temps. Pour nous, par exemple, sortir de la rue, c'est... Ok, c'est compliqué, mais ça peut peut-être se faire en 2 mois. On imagine ça, que 1, on va avoir un assistant social, 2, elle nous donne des adresses, 3, on visite, 4, on fait des efforts, et puis c'est fait, voilà, 2 mois. Ben, en fait, non, au bout de 2 ans, on se rend compte que le timing n'est vraiment pas le même, que sortir de la rue, c'est long, c'est plein d'épreuves, que dès qu'on fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière, et que c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a la répétition, donc, qui peut finir par décourager un peu. On se dit qu'on a eu, un peu comme je disais tout à l'heure, on a eu une bonne discussion avec quelqu'un, on a un peu poussé à se motiver pour faire quelque chose, il a compris, il a dit ok, je vais venir par exemple à la soupe fraternelle, j'ai compris que c'était bien et tout, puis le jour de la soupe fraternelle, il n'y a personne. Puis voilà, bon, on se dit que c'est un peu dommage, mais encore une fois là, il ne faut pas réagir comme ça, il ne faut pas imaginer que c'est comme quelqu'un qui serait plus stable. C'est un cas. Et puis on peut avoir des marottes qui sont moins belles que d'autres ou qui sont plus dures. Et ça peut, au bout d'un moment, on peut se dire que c'est dur ou que c'est ennuyeux. Je pense que la solution par rapport à ça, par rapport à cette répétition, cette attitude, c'est de bien revenir à la nature de notre action. C'est-à-dire que finalement, la première fois que je suis dans la messe à 19h et que Bertrand dit on a besoin de monde, nous, on ne veut pas que nous rapporte quelque chose. On veut juste y aller pour aider les gens. Donc, il ne faut juste pas oublier. Il faut se dire que le sans-abri est l'unique préoccupation et l'unique objet de notre visite. Donc, potentiellement, on ne le réveille pas, même si on a fait un détour exprès pour aller le voir et qu'on a envie de lui raconter quelque chose. Il faut chercher à comprendre et qu'il faut donc s'adapter à son rythme, même si son rythme est très différent du nôtre. Je pense qu'il faut quand même s'engager un petit peu dans la durée et dans l'activité pour pouvoir être reconnu. Et puis, motivé malgré la pluie, malgré le froid, malgré les soirées du jeudi, etc. Et puis il y a une autre chose que j'ai trouvé difficile, c'est le côté vie groupe. Alors comme je vous l'ai dit, on est une trentaine, les gens viennent de partout, et c'est évidemment un enrichissement. Et au-delà de ça, je me dis, parce que moi par exemple je travaille dans une société, donc tout est un petit peu optimisé, c'est une grosse boîte quoi. Et là c'est un petit peu, hein, dans un groupe de personnes qui n'est pas tout à fait optimisé. Il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait améliorer. Et puis évidemment on finit par dire ça, quand on vient tout le temps. On dit oui, mais peut-être qu'effectivement, partir à 1h, si on prenait des décisions au bon moment, et qu'on ne traînait pas trop, et qu'au moment de partir, on faisait pas ça, etc. Donc, par exemple, ouais, il y a des choses qui pourraient être optimisées, anticipées, voilà, que tout le monde n'a pas besoin de se comprendre ou d'intervenir tout le temps. Et ça, je pense que c'est ça dans tous les groupes humains. Et donc, c'est quelque chose que je ressens assez souvent dans ce marron. Et c'est là que je me dis, quand j'ai réfléchi, que finalement, est-ce que c'est vraiment important d'optimiser tout? Est-ce que c'est vraiment important que ce soit amélioré, que ce soit bien carré? Pas forcément. On est un groupe chrétien, on est un groupe qui veut nous donner avant d'optimiser. Donc, voilà, c'est pas forcément l'objet de notre groupe. Et en y réfléchissant, on dit même qu'en fait, parmi les 30 personnes qui viennent, il y en a qui viennent aussi parce qu'ils sont heureux d'être dans un groupe. Il y en a qui sont heureux de vivre autre chose que leur quotidien. Et tout ça, il faut le respecter. C'est finalement assez beau de se réunir pour ces raisons-là. Et que du coup, venir tout optimiser et tout trancher pour que l'objectif soit rempli assez vite et qu'on rentre plus vite se coucher, c'est pas forcément une bonne démarche. Voilà. Je pense que le partage de ce que je fais moi le mardi et le jeudi n'est pas automatique. C'est-à-dire que je ne suis pas facilement. Je ne crois pas forcément le fait que je fasse ça. Pour plein de raisons, déjà, c'est parce que c'est chrétien. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne comprendraient pas. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler, mais ça peut faire partie des freins. Et une autre chose, c'est que je trouve qu'on a tendance à se dire qu'une bonne action ne doit pas être trop exposée. si on commence à expliquer qu'on fait des choses bien, bah, on se dit que c'est un peu moins de valeur. Enfin, on ne fait pas pour ça, on fait pour les autres, donc c'est pas forcément l'objet. Maintenant, je me suis rendu compte, parce que j'ai souvent des amis ou des collègues qui me disent bah, « Pourquoi tu viens pas à la soirée de jeudi ?» Clairement, on finit par leur expliquer. Et là, ils comprennent très bien, ils sont touchés, et parfois, on en a du coup qui demandent s'ils ne sont pas du tout chrétiens, et là, ça devient intéressant, qui demandent s'ils peuvent venir participer avec nous, pour voir, ou même qui nous donnent des choses pour qu'on puisse aider davantage. Par exemple, j'ai des collègues à mon travail, qui font, quand ils ont appris que je ne connais pas, qui étaient très contents de me donner des pavillons, des rasoirs, des pulls, puis remplir le coffre de la voiture pour pouvoir aider. Donc je crois qu'en fait, le témoignage est une belle chose. Il ne faut pas hésiter à témoigner de ce qu'on fait, parce que on ne sait jamais ce qui va se passer et les voies du Seigneur sont en général. Et je vais juste finir en vous récitant la petite prière à Notre-Dame de la Rue. On récite parfois avant de partir en maraude, déjà ce qu'on a fait d'elle. Donc prière à Notre-Dame de la Rue. Ô Marie toute puissante sur le cœur de Dieu, regarde avec tendresse tous les exclus de la terre, qu'ils reçoivent par ton intercession le courage de demander aide et soutien, le désir de sortir de l'Orient, la volonté de saisir la main tendue vers eux, la joie d'être reconnus dans leur dignité, la force d'accepter simplement d'être aimé. Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accompagnent, donne-leur un regard qui ne juge pas, mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent, procure-leur la joie dans la réussite, l'humilité dans l'échec. Fais que chaque jour, ils espèrent contre toute espérance. Embrasse leur cœur d'un ardent désir d'aimer, pour que par toi et avec toi, Notre-Dame de la Rue, chacun se reconnaisse davantage frère de Jésus. Voilà, la société sans notre emploi. Je vous remercie.
Merci.
Merci à Florent. En fait, c'est pas, en l'écoutant, on comprend que la vie n'est pas si simple que ça. En fait, aussi à la foi chrétienne, expliqué par le terme de charité, par la maraude, c'est sans parler de Jésus, sans parler de Marie, sans parler de termes très dans la foi, mais par l'action, par vraiment des détails, on peut aussi accéder à la foi dans notre vie même. Et la foi n'est pas uniquement dans le ciel, mais aussi sur terre. Et vraiment, il faut se donner. C'est, en écoutant, on sent que vraiment, la charité, c'est un don. Parce que ce que je sens, en faisant la maraude aussi avec Guillaume et avec les autres, c'est la fidélité. C'est pas, de temps en temps, je viens et vous voir ce que c'est la maraude. Et je fais une fois maraude, et puis j'oublie quelques mois après. Je reviens, et c'est pas ça la maraude, c'est la fidélité, c'est la présence, c'est l'amitié, c'est une confiance. C'est comme, c'est un engagement, et la foi c'est aussi un engagement je pense. C'est pas seulement une expérience qu'on fait de temps en temps, c'est un engagement quotidien, mais donc et ça, c'est pas donné à tout le monde. La charité, aller vers les autres qui vivent dans la rue, c'est pas donné à tout le monde. Même si j'invite les gens à faire un maraude avec moi, beaucoup de gens disent non, ça c'est pas pour moi. Et une fois, j'ai recruté les maraudeurs à la mairie. Il y avait une fête des associations, donc je fais un stand et, pour recruter les maraudeurs. Et toute la journée, je vois les gens qui passent devant et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui évitent le stand de maraude. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la maraude. Et donc la charité, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est vraiment un don. Là, comme si la foi est un don, aussi la charité c'est un don, l'amour c'est aussi un don, mais vraiment on est tous appelés à l'amour et surtout à la charité. Moi en tant que, moi je suis un français, mais excusez-moi, je ne parle pas très bien le français, Mais quand même, vous voyez, quand je vois la société française, quand même c'est la cinquième économie du monde et c'est un pays riche. Quand même, je vois pas mal de gens qui sont dans la rue. Et le gouvernement et la société n'arrivent pas à faire quelque chose pour les gens dans la rue et les abandonnent. Et c'est l'Église, c'est les dieux, c'est les associations par leur aide spontanée qu'ils viennent les aider. Quelquefois, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Comment vous arrivez à n'arrive pas avoir un système pour vraiment sauver les gens dans la rue? Mais en écoutant le témoignage, on comprend aussi que ce n'est pas si facile d'aider les gens dans la rue. Et quelquefois, même s'il y a tas de systèmes, il n'arrive pas vraiment à bénéficier de ce système-là. Donc c'est de là qu'il faut maintenant aller donner un coup de main, les aider, les accompagner. C'est un accompagnement aussi. Voilà, il y a des questions, si vous avez des questions.
Est-ce que parfois, on va montrer les femmes?
Oui. Ouais, un peu moins. Des femmes seules, ça arrive, il n'y en a pas beaucoup. Des femmes dans une famille, avec un mari, souvent un enfant, ça peut arriver aussi. Mais je dirais que moins quand même.
Les femmes seules, elles sont facilement abordables ou j'imagine qu'elles ont un peu plus de crainte.
Ouais, encore plus, ouais. Mais ouais, vraiment, il y en a moins. Je sais pas ce qu'il y a comme association pour les femmes, pour les aider. Mais je pense qu'il va y avoir des choses en plus, ou alors peut-être qu'elles acceptent plus d'être aidées, d'être hébergées. On en voit quand même moins. Mais oui, c'est vrai qu'elles sont peut-être encore plus vulnérables et elles ont plus de crainte.
Est-ce que vous avez entendu parler d'une application qui s'appelle Entraide?
Alors,
une application téléphonique pour vous dire.
Pour Entourage plutôt.
Entourage, pardon. Entourage.
J'en ai entendu parler une fois, mais...
J'ai vu une vidéo, je tournais sur une vidéo cette semaine, où on voit justement des maraudeurs avec des OPS, ils mettent que les prénoms, et ils disent que grâce à cette application, là, si d'un seul coup on a envie de faire une maraude n'importe quand, on a envie d'aller dans la rue pour aller à la rencontre de la vieille, on peut les localiser et voir leurs besoins. Je ne sais pas si j'imagine, c'est des maraudeurs qui renseignent. Ouais,
tout à fait.
Tout à l'heure, vous parliez des problèmes des prisonniers. Il y avait un collègue dans ma société qui fait des maraudes aussi. Comme informaticien, il a inventé un système, je ne saurais pas expliquer quoi exactement, mais justement pour éviter le problème des gens qui perdent leur papier ou qui veulent peut-être un scan de, je ne sais pas, ça s'appelle le corps confort numérique, hein, de papier. Et si ça vous intéresse, je vais vous demander plus de détails. Je crois que c'est en train d'être déployé dans toutes les mairies. Il y a des villes qui sont intéressées par son application.
Ouais.
Donc je vais essayer d'en savoir plus et puis de le faire savoir.
Ouais, super. Sinon, Obama, il a proposé la puce.
Hein?
Sinon, Obama, il a proposé la puce.
La
puce. Vous avez entendu plein de ça,
non?
C'est en fait dans la théologie chrétienne, c'est dans l'Apocalypse où on parle du signe de la bête. Et le signe de la bête, on dit, c'est une. On pense aujourd'hui que c'est une micro-puce où tout le monde sera affiché et aura le droit d'acheter, de vendre, qui sera numéroté en fait, quelque part. Et Obama avait mis cette hypothèse. Pas cette hypothèse, il a défendu cette loi pour qu'en fait tous les SDF soient pucés, parce qu'en plus les animaux aujourd'hui, on le fait pas aux animaux, c'est pour moi, on le fait pas aux hommes, parce que c'est un problème éthique, c'est pas un problème technique. Et il avait dit, ben voilà, nous avons des gens qui sont dans la rue, des gens qu'on trouve vraiment témoins. On connaît pas leur bourse de gain, on ne sait pas qui ils sont, etc. Et puis il dit, bah, c'est bien, moi je vais obliger les gens à être pucés, et puis comme ça, quand les gens arriveront à la rencontre, ils sauront tout de suite qui c'est, ce qu'il y a, pourquoi il est là, comment il est, etc.
Bizarre. Non, c'est bon, l'enfer, c'est pas avec bonnes intentions. Effectivement, ça paraît une bonne intention comme ça. Et quelque part, on peut dire, bah non, ça peut être un piège terrible de la marchandisation du corps, quoi, de la personne, ou de la liberté aussi. Et ça, c'est une question qui n'est pas passée en première fois. Ça paraît aussi à faire passer la main. Voilà.
J'ai une petite annonce à faire en fait concernant la marotte et la charité. À part les marottes dans ma paroisse, je fais aussi l'accueil des SDF à Ouzana de Madeleine. À l'église Madeleine, en bas, il y a un accueil des SDF. Et je fais ça comme bénévole une fois par semaine. Et j'aimerais savoir si vous avez envie, vous pouvez aussi faire ça, venir comme bénévole une fois par mois, un week-end, soit la matinée ou l'après-midi. On a besoin de bénévoles, donc si vous avez l'intention de faire soit la marotte, soit l'action de charité, un engagement, voilà, il y a la CEO d'un âme qui vous attend, donc une fois par mois, j'essaie de organiser ça, donc, voilà, il y a ça. Deuxième, il y a une petite annonce concernant un sanctuaire Continiac, Loan va présenter un petit pèlerinage à Continiac ou quelque chose à Continiac.
Moi j'avais juste une petite question encore. À un moment donné, j'ai dit il y a des comptes rendus toutes les semaines sur Internet. Est-ce que c'est interne pour vous tous ou est-ce que nous, on peut, en tant qu'externe, on peut y avoir accès aussi?
Alors, en fait, nous, on a un site qui a une partie ouverte dans laquelle on se présente, on explique aux gens qui on est, comment on peut nous rejoindre. Et il y a une partie interne avec un code où on a accès au calendrier avec les gens qui vivent quand ils viennent, le compte rendu. Ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tous. Maintenant, c'est ouvert à tous les maraudeurs. Donc tous ceux qui connaissent en fait les gens de la rue qu'on nous rencontre, ils ont accès à ça, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, rajouter des détails, ils posent des questions. Mais ce n'est pas ouvert à tout le monde.
Okay.
Mais bon, j'avais une question.
Merci, j'ai fait ça.
Plus maintenant, mais j'ai fait ça pour les maraudeurs des gens de la rue. Et j'avais une question, est-ce que c'est. Donc il y a les gens que l'on connaît, qu'on perd et qui restent.
Ouais.
Et puis il y a les gens de passage. Est-ce que vous voyez des changements aujourd'hui? Par exemple, on va dire, voilà, si c'est la crise des migrants syriens, vous avez plus de migrants syriens, de migrants africains dans la rue qu'avant. Enfin,
ouais. Voilà. Alors en fait, on s'attendait à ce que ce soit le cas. Et on n'a pas trop de migrants, enfin, soit c'est le quartier qui veut ça, soit c'est notre horaire de passage qui est assez tard, soit c'est parce qu'il y a des situations qui s'en occupent et du coup on ne les voit pas. Nous en fait, on fait des parcours où on va d'endroits, on sait qu'il y aura des gens qui nous attendent, et en passant, par contre on fait des petits détours, on garde les yeux ouverts, on essaie de s'arrêter dès qu'on peut sur les nouvelles personnes, mais on ne voit pas beaucoup de nouvelles personnes, et quand on en voit, on passe tout le temps pendant quelques semaines après l'endroit où ils étaient. Souvent ils sont partis, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit qu'une semaine.
Je vais juste rajouter un chiffre, l'armée du salut en général qui est aidée. Pour sortir quelqu'un de la rue, il faut en moyenne 7 ans. Mais pourquoi? Parce que cette armée est tellement à part, quoi. Pour gaper les sorties de ce monde, c'est-à-dire se réinsérer socialement, c'est plus que de l'argent et des moyens. C'est toute une psychologie, c'est toute une aide, une effectivité. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si vous connaissez la session qui s'appelle Lazare, quelque chose, hein. Maintenant ça se transformait en l'association Saint-Jean-Homme qui a ouvert une association pour la colocation d'appartement avec, qui s'appelle Lazare maintenant. Où il y a une partie de jeunes qui décident de donner une année de leur vie avec, je sais pas, bon, par exemple, c'est des appartements qui placent avec trois hommes qui vont avoir leur vie complètement indépendante, et puis 3SDF dans cet objectif de pouvoir donner l'amour chrétien, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu dans l'autre, d'un frère, tout en vivant sa vie, parce que quand on a des choses à vivre, et puis voilà. Ils ont que deux obligations, je crois, c'est, pour les chrétiens, c'est de prier le matin ensemble, et pour toute la maisonnée, au moins d'avoir un repas par semaine, je crois, ensemble. Voilà. Et c'est tout. Après le reste, ils sont accompagnés par l'assistance sociale, etc. Mais la création du lien, c'est ça le plus difficile. Et même quand les gens qui font la narrante, souvent, c'est bien d'avoir du discernement, parce que l'application personnelle, c'est jamais où on peut s'arrêter. À un moment donné, cette personne, est-ce que je peux aider, est-ce que je peux faire ça, ça, ça.
Il faut vraiment un discernement, une réflexion sérieuse derrière. Sinon, c'est pas donnant, toujours. C'est pas distributif, donc il faut bien réfléchir avec. Et c'est aussi ce que Jean-Michel a dit, c'est aussi dans le projet de contre-prière aussi, parce que maintenant, c'est un peu la première fois que j'en parle, je sens dans le projet de faire développer le contre-prière à une certaine communauté, dans laquelle, en fait, justement, on partage un peu notre vie aussi avec les gens de la rue ou les gens en difficulté, tour à tour. Donc, je suis en train de monter sur ce projet. Et voilà, donc, si le projet se concrétise, je vous ai invité, donc vous pouvez participer. Et à un certain moment, je vais annoncer officiellement et y participer. Voilà.
Est-ce qu'on a le temps juste de lire un texte pour vous parler un petit peu?
Oui, juste une minute et puis
Alors en fait, c'est Cotinia Saint-Saëns et en fait, c'est la formation de